Cette radio sur Terre du Son.
On est maintenant en compagnie de Av The Moskovitch, formation orléanaise post-rock qui s'est produite cet après-midi sur la scène Propulsant, musique à la fois pleine de tension et aérienne, soutenue par l'utilisation de nombreux samples issus de films, de la littérature ou de discours. Trois albums sont sortis sur le label qu'ils ont créé, une simple théorie des glaces en terrasse en 2011, là où les idées vertes incolores dorment furieusement en 2015, et Papier Vinyle, le dernier en date, l'année dernière. Bonjour à vous.
Salut.
Bonjour.
Salut.
Le concert était donc il y a à peine quelques instants, ça s'est bien passé, vous êtes content?
Ouais.
Oui. Pour moi, la musique que vous faites, ça se prête pas mal à l'introspection. Je me vois bien dans une salle obscure, les yeux fermés, mais finalement, posé dans l'herbe au soleil, ça marche très bien aussi.
Parle-nous un peu de ton papa.
Ouais, on est bien.
J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un petit souci de sample. Finalement, en fait, vous pouvez tout à fait reprendre les textes que vous utilisez, vous les connaissez par cœur.
Non, en fait, c'était une blague. Il n'y avait pas de souci. C'était prévu.
D'accord.
Ouais.
Qu'est-ce que ça vient, d'où ça vient ce choix d'utiliser des extraits de films, des extraits de discours plutôt que de chanter?
Parce qu'on n'aime pas les chanteurs.
Au départ, ça vient de l'idée de laisser de la place à la musique plutôt qu'à un leader qui est le chanteur d'habitude dans les groupes. Du coup, on s'est dit que c'était sympa quand même d'accompagner avec une voix nos morceaux qui sont plutôt instrumentales. Et on a commencé avec des samples.
Et il se trouve que la culture française et étrangère est assez riche pour pouvoir aller prendre les morceaux qui nous intéressent dans des textes, dans des interviews, dans des reportages. Et c'est assez complet et encore assez d'actualité pour être exploité aujourd'hui.
Tout à fait.
Comment vous les choisissez? Il y a des thématiques qui vous intéressent plus que d'autres? Vous faites un gros travail de fouille pour l'utilisation ou vous piochez à droite à gauche selon l'inspiration?
Qui va répondre?
On pioche à droite à gauche selon l'inspiration. Après, il y a un gros travail de fond parce que tout n'est pas exploitable. Il faut avoir une qualité quand même, une bonne qualité quand même de son et que la personne articule bien, parle bien. On a fait ça sur tous les samples, excepté pour celui de Marguerite Duras. Là, c'était un défi artistique.
Et souvent, il y a une question des droits d'auteur aussi. Donc sur un de nos albums, par exemple, on a payé les droits pour pouvoir exploiter un des samples. Notamment, c'était les discours du dictateur de Charlie Chaplin. Donc on fait gaffe à ça aussi, aux droits d'auteur quand même.
Et à travers cette sélection, quelle image un peu globale vous essayez de faire passer?
Du plaisir.
Alors encore une fois, ce que tu as dit tout à fait juste, c'est que ça laisse libre cours à l'interprétation. Et le fait de piocher dans des textes anciens, parfois très imagés, ça laisse aussi la place à l'interprétation comme la musique. Les gens l'interprètent comme ils veulent et en font un peu ce qu'ils veulent en fait. Voilà, c'est un peu l'idée.
Et voilà, ça nous appartient plus en fait. Une fois qu'on l'a composé, on l'a mis en ligne, ça nous appartient plus. C'est à la personne qui l'écoute de s'approprier en fait de ce qu'on a fait. C'est l'idée.
Et sur un album, il n'y a pas de risque de se disperser? Après, ça reste les instruments et la musique qui va primer sur la cohérence de l'album.
Est-ce que c'est un risque de disperser justement?
Parce que pour nous, non.
Nous, la musique, les musiciens restent les mêmes, les inspirations musicales restent les mêmes. On peut se permettre, je pense, de disperser dans les samples sans que ça joue vraiment sur le type de musique qu'on fait. En fait, on restera toujours à The Moskovitch, quel que soit le sample qu'on mette dessus.
Et sur les inspirations que vous avez en commun, justement, vous avez des références communes où chacun a un peu ses propres références? Des choses qui
au niveau musical, tu veux dire, ou au niveau des textes?
Au niveau musical.
Au niveau musical, on vient tous de horizons un petit peu différents, mais on a un terreau commun, des groupes qui ont kiffé tout le monde. Après, c'est pas ça forcément qu'on veut reproduire. Mais oui, je sais pas, on pourrait faire plein d'exemples, Fugazi par exemple, je crois que tout le monde est assez d'accord là-dessus.
Mais la rencontre était plus humaine que musicale. En
ouais, c'est faut dire ça.
Tout ça.
Elle l'est clairement.
Ça s'était fait comment cette rencontre? On va chercher un peu loin, mais...
Sur une terrasse déjà.
Ouais, en fait, avec Géraldine, on vient de Lille. On avait un groupe à Lille, on est parti de Lille, on ne voulait pas remonter trop de groupes. Marcello venait d'Italie, de Milan. Il avait un groupe à Milan, il ne voulait pas remonter trop de groupes. Géraldine a connu Marcello, il a dit tiens, allez, on essaye avec un batteur, on a essayé à trois. Et après c'est greffé Nico qui venait de Paris, on s'est dit oh là ça va être impossible, finalement on a réussi. Et plus tard c'est greffé Ben qu'on a connu dans un autre groupe. Ce groupe là a arrêté, on lui dit bah écoute.
Pas en terrasse mais toujours avec une bière à la main.
Voilà c'est ça, pas en terrasse mais toujours avec une bière à la main.
Mais là aussi il faut dire que la rencontre était d'abord humaine et après on a commencé
à jouer. Et après on a regretté.
Tout de suite.
Au niveau du travail de composition, comment ça se passe? Quelqu'un vient avec une idée, avec une boucle, avec quelques mesures, ou vous faites des sessions plutôt collectives?
C'est très simple. Jean arrive avec sa guitare. Il fait gling gling gling. Pardon. Il fait gling 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 et nous on se pose dessus. Non, bon,
voilà. Lui il fait gling, nous on fait glang et ça fait le morceau.
Non mais c'est un vrai échange, il n'y a pas un compositeur qui compose tous les morceaux, c'est que en général c'est moi qui apporte les idées, les premières idées, mais qui sont très succinctes. Et on brode autour de ça en fait en répétition et c'est ça qui fait vraiment le morceau, mais ça n'a plus rien à voir avec les idées que moi j'apporte au départ.
Et vous avez sorti, il me semble, tous vos albums sur le label que vous aviez donc monté au tout début. C'était important pour vous d'avoir ces structures-là et d'être en autoproduction et de ne pas dépendre des aléas de trouver un...
Ouais, exact. Et on voulait plus faire partie du circuit des groupes. On voulait que ça soit libre, on voulait faire ça pour notre plaisir. Et du coup, on a fait des rencontres comme ça sur les Creative Commons. Et bah, c'est comme ça qu'on a rencontré Sam Setin, qu'on a créé notre truc et qu'on enregistre avec les copains. Et puis voilà, ça fait ce que ça fait.
Après, tout n'est pas sorti uniquement sur notre label. Il y a d'autres labels qui sont greffés, comme le label de Samuel Setin, qui est Strangla Records. Il y a un label italien qui nous a signé aussi, c'est San Pedro. Donc, c'est pas uniquement sur notre label, mais c'est des labels avec qui on partage des valeurs. Et on sait que la musique continuera à nous appartenir, on en fera ce qu'on veut en fait. On a rien à leur rendre. Il n'y a pas un contrat qui nous oblige à faire des choses. Surtout qu'on est sur Creative Commons, donc on n'a pas de droit, on ne touche pas de droit à sa scène. On touche pas, voilà, on peut jouer gratuitement. Enfin, il n'y a pas de. On est entièrement libre de ce qu'on fait avec notre musique. En fait.
Et le dernier album est sorti aussi sur le label des Rams, qui s'appelle Araki Records. Il y avait nous vers nous. Ça nous plaisait ce qu'on faisait. On a commencé à travailler ensemble. Donc il y a plusieurs petits labels en fait, qui nous aident à sortir les albums.
Et c'est votre projet à plein temps ou vous travaillez à côté, vous avez d'autres activités, vous êtes professionnel en fait.
C'est notre projet à plein temps mais on travaille à côté.
C'est ça. Là on y retourne.
Vous avez fait des concerts, alors au moins un concert, des concerts performance accompagnés avec une danseuse et des vidéastes. C'est des formats, c'est des expériences qui vous intéressent à explorer?
On en profite pour la saluer, elle s'appelle Laure. C'est une performeuse, danseuse qui était avec nous en scène. On a tourné pas mal d'années, 3-4 ans ensemble. Et après, ses projets de vie personnelle l'a amené ailleurs, donc on a continué sans elle. Mais on est ouvert à des contaminations,
ouais.
Si je peux le dire comme ça.
Et il y avait aussi Labo Media qui nous ont fait des vidéos interactives et qui marchaient avec le son, avec les volumes. Et du coup, on a essayé d'exploiter ça. Après, on a fait des vidéos nous-mêmes qu'on lance aussi. Enfin, ça dépend en fait, en fonction du temps qu'on a devant nous. On essaye plein de trucs.
Ça permet de développer un peu l'univers via d'autres moyens que la musique.
Ouais.
Et c'est un peu comme tout le monde qui est dans la culture, je pense. Et le but avant tout, c'est de rencontrer des gens. Et quand on rencontre des gens et qu'on a l'occasion en plus de pouvoir échanger avec eux au sein de notre activité, ben on le fait. Donc on est fermé à rien. Si on nous propose demain faire du jonglage sur Avdo Moscovic, il y aura du jonglage sur Avdo Moscovic ou de la peinture ou n'importe quoi.
Pour la suite, cet été, on peut vous retrouver sur d'autres dates, d'autres festivals ou vous tournez un peu après?
On joue vendredi prochain, on joue à la Guinguette de Saint-Jean-de-Bray et après, on va devoir enfin changer de bassiste. Donc on va devoir marquer une petite pause et on enchaînera, je pense, pour la rentrée, un petit peu avant la rentrée, après la rentrée. Ouais. Voilà.
On pourra donc vous retrouver là-bas. Merci beaucoup, Avdo Moscovic, d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions.
Merci. Salut.